autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, chers amis auditeurs. Nous sommes en direct avec Cécile Estienne de Cerveau et Psycho. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Carole Châtelain de Sciences et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour à tous.
Caroline Tour, mais oui, c'est bien elle, de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et Philippe Pageot de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour à tout le monde.
Au sommaire aujourd'hui, un trou noir et des galaxies, le vaccin contre Ebola à l'épreuve du terrain, la seconde révolution quantique et les bienfaits de la nature sur notre cerveau. À suivre autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Bienvenue. D'abord, arrêt sur l'image d'une mandibule qui a fait la une de la prestigieuse revue Nature et pour cause. Non seulement l'histoire de ce morceau de mâchoire daté 160 000 ans est des plus rocambolesques, découvert par un moine bouddhiste dans une grotte du plateau tibétain, cette demi-mandibule a d'abord été confiée au sixième Bouddha vivant de Gungtang avant d'atterrir dans les tiroirs de l'université de Lanzhou pour être finalement exhumée par les paléontologues Fao Chen et Jean-Jacques Hublin qui viennent non seulement de le dater comme le plus ancien fossile d'hominidé découvert à ces altitudes, plus de 3000 mètres, mais qui ont surtout réussi à l'analyser comme appartenant à un groupe humain éteint, celui des Denisoviens, cousins de Néandertal, dont on ne possédait que quelques fragments osseux exhumés dans une grotte de l'Altaï en Sibérie. Les premiers Tibétains étaient donc Denisoviens. Voilà qui rajoute encore, Cécile Estienne, une branche à l'arbre généalogique de plus en plus foisonnant de notre humanité.
De plus en plus foisonnant, oui, c'est le terme. Je trouve que c'est une découverte formidable, mais c'est surtout une suite de découvertes formidables. C'est vraiment très intéressant à suivre cette histoire des Denisoviens, parce que au départ, on a trouvé cette espèce d'hominidé via l'ADN uniquement. On avait un bout de phalange, on peut pas reconnaître ce que c'est un bout de phalange. Si, on voit bien que c'est quelque chose qui ressemble à du singe, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et quand la paléogénétique a fait beaucoup de progrès, et finalement, ils ont vu que c'était une espèce différente qu'on a appelée Denisova, puisqu'on l'a découvert dans la grotte de Denisova en Sibérie. Mais depuis, les recherches n'arrêtent pas de donner de nouveaux indices, que ça soit via des fossiles, comme celui-là. On a trouvé aussi un petit bout de calotte visiblement crânienne dans la grotte de Denisova elle-même. Et puis surtout, les recherches génétiques ont montré que à peu près tous les Asiatiques, tous les Orientaux en tout cas, ont des gènes de Denisoviens. Comme nous, en Europe, nous avons tous des gènes de Néandertal. Tout le monde a des gènes de Denisova là-bas.
Donc et les Denisoviens prennent de plus en plus d'importance dans notre arbre généalogique, on peut le dire comme ça.
Exactement, et ils sont aussi probablement beaucoup plus divers qu'on ne le sait encore aujourd'hui. Notamment parce qu'ils ont visiblement vécu très longtemps sur un grand espace. Donc on peut supposer, en tout cas, ils sont plus divers qu'on ne l'a pensé, en tout cas au départ. Et là, justement, il n'y a pas longtemps, il y a eu une autre recherche publiée dans celle par des chercheurs de tous les pays, dont François-Xavier Rico du CNRS, qui montre que les papous, c'est les aujourd'hui la population actuelle qui garde le plus de gènes denisoviens, entre à peu près 4%. Voilà.
Mais c'est loin de l'Altaï et c'est loin du Tibet.
Exactement, hein. Parce que justement, les denisoviens auraient, comme je vous l'ai dit, occupé un très très large espace. Voilà. Et ces recherches, qui sont compliquées à expliquer, mais semblent montrer qu'ils se sont croisés deux fois avec les denisoviens, dont une fois il y a seulement 30 000 ans, peut-être même juste 15 000 ans. Donc en plus, les Denisoviens auraient survécu très longtemps.
Ah, il y a aussi toute une question de datation, Philippe Pageot, autour des Denisoviens.
Bon, effectivement, donc là, c'est vrai qu'on peut insister sur la haute technicité de ces datations, l'uranium-thorium, qui est quelque chose de pas évident, qui est une application de la mécanique quantique, dont on va parler tout à l'heure, justement, et également les progrès en protéomique, parce que là, justement, on n'a pas trouvé d'ADN, c'est ça qui était assez remarquable, c'est qu'on a trouvé des protéines, et à partir des protéines, on a obtenu le protéome, c'est-à-dire une partie des protéines qui sont produites par l'ADN, et c'est en comparant les protéomes qu'on a pu
savoir que c'était
une mandibule denisovienne. Grande technicité, donc il faut aussi saluer cette cette prouesse.
Et puis, c'est pas fini, finalement, ça va être quoi la chasse aux fossiles dénisoviens, ouais. L'Eldorado, du côté de la Chine peut-être?
Oui, du côté de la Chine, c'est vrai que
Caroline Tourbe.
Il se passe vraiment quelque chose en termes de terrain de recherche en Chine. On sait que rien n'a été fait pendant très longtemps. C'est en train de commencer. Les scientifiques chinois sont vraiment présents sur le terrain. Il y a vraiment aussi une volonté politique de faire des recherches, d'imposer dans ce domaine-là aussi la Chine. Et du côté des chercheurs français, c'est vrai que c'est aussi parfois compliqué. Alors là, c'est une belle réussite, mais c'est parfois compliqué de réussir à intégrer des programmes de recherche. Enfin, et je sais que pour certains chercheurs, c'est un enjeu important de réussir à être dans ces équipes sur le terrain en Chine.
Là, en tout cas, c'est une équipe internationale menée donc par Fao Chen de l'Institut de recherche du plateau tibétain et par le professeur Jean-Jacques Hublin du Collège de France et de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse dans Science et Vie de ce mois de mai, Caroline Tourbe, vous consacrez votre dossier médecine à Ebola, le vaccin à l'épreuve du terrain, alors que le virus Ebola ressurgit en RDC, au Nord Kivu. Comment le vaccin V920 en cours d'homologation par l'OMS peut-il atteindre les populations touchées? Est-il aussi efficace en pleine épidémie sur le terrain qu'en laboratoire? Je propose d'écouter le docteur Marie-Paul Kienier, chercheuse à l'INSERM, directrice de l'OMS à l'époque quand elle était interrogée sur France 24. C'était en 2016, après les tout premiers essais du vaccin contre Ebola en Guinée.
Le virus Ebola pourrait enfin avoir son vaccin. Un vaccin d'origine canadienne et dont la firme américaine Merck a acquis les droits de commercialisation. C'est en 2015 que le premier essai a été conduit dans la région côtière de Basse-Guinée.
Ce vaccin semble très efficace et son efficacité a été prouvée dans cet essai. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées, donc zéro cas. Et en revanche, il y a 23 cas parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées.
Efficace à 90% selon le dernier test, ce vaccin contre le virus Ebola est pour la première fois distribué à grande échelle au Nord Kivu en pleine épidémie. Et c'est ça qui suscite à la fois un immense espoir, mais aussi beaucoup de questions, Caroline Tourbe.
Oui, c'est la première fois qu'une épidémie se déroule avec pour rempart un potentiel vaccin. C'est-à-dire qu'en 2016, il y a eu des essais, mais c'était très parcellaire. Cette fois-ci, les centres de vaccination sont plus nombreux, les personnes vaccinées sont beaucoup plus nombreuses. Mais on reste quand même dans de l'expérimental, c'est-à-dire qu'on reste dans une situation où on donne ce vaccin à titre compassionnel. Ça veut dire simplement qu'on n'est pas certain de son efficacité. Les chiffres qui ont été avancés par la personne de l'OMS, 90%, c'est les chiffres qui sont préliminaires. Encore une fois, quand on a des vaccins qui sont développés en laboratoire jusqu'au moment où ils arrivent et ils sont utilisés largement, ça nécessite énormément de tests sur l'efficacité, sur la sécurité. Donc là, actuellement, il est donné dans les zones qui sont les plus touchées et uniquement à des personnes qui peuvent potentiellement être en contact avec des malades ou des personnes qui sont décédées ou avec le corps de personnes décédées, puisque c'est une maladie qui peut être transmise par tous les fluides, y compris après la mort, notamment lors des cérémonies funéraires. Donc on est vraiment dans une situation très nouvelle où, à plus large échelle, on a un vaccin dont on n'est donc pas certain de son efficacité.
Mais on ne peut pas ne pas le donner.
Et c'est vraiment une science en marche, une science sur le terrain en marche, ce qui est très différent de ce qui a pu se passer précédemment sur les laboratoires, parce que en fait Ebola, quand le virus quand on décide, en gros, quand la science décide de se mettre à la recherche d'un vaccin contre Ebola, elle trouve. On n'est pas comme dans le cas du sida ou dans le cas du paludisme, où là c'est un parasite. C'est pas si compliqué que ça d'avoir trouvé une idée de vaccin a priori efficace. C'était simplement ensuite d'avoir les moyens de le développer et puis de le tester en situation. Le virus est tellement dangereux qu'évidemment, la phase test qui consisterait à vacciner des volontaires, à les exposer volontairement au virus...
Non, on ne peut pas faire ça, bien
sûr. C'est pas possible. Donc on ne peut l'expérimenter, on ne peut mener ces expériences que sur le terrain, en période épidémique, ce qui est le cas actuellement. Et on espère qu'il y aura des résultats qui seront cette fois-ci fiables et puis qui permettront d'utiliser le vaccin systématiquement. Mais vous le disiez, on est sur le terrain, c'est pas simple. En
et
fait.
Puis là, c'est pas simple d'arriver à atteindre. Là, ouais. On parle de régions assez reculées, dans le Nord Kivu. L'article, il est signé Yves Siama, oui. Hein, qu'on peut soupçonner de rien du tout. Il fait partie des journalistes scientifiques illégalement fichés et visés par le groupe Bayer Monsanto.
Son travail dans Sciences et Vie. Ouais.
Exactement, donc on peut le croire. Mais il dit aussi que rien ne sera possible si on n'a pas l'accord des populations, parce que c'est pas évident.
Ça sert à rien d'avoir un bon vaccin si on n'arrive pas à l'injecter à la personne qui en a besoin pour se protéger de la maladie. Donc oui, c'est indispensable d'avoir l'accord des populations. Et si précédemment, on a pu avoir une vision qui était très, moderniste de la maladie, de l'utilisation du vaccin, c'est-à-dire de dire mais on a un vaccin ou on a des traitements, on les utilise, un point c'est tout. En fait, on s'aperçoit que ça fonctionne pas du tout comme ça. Et si les réticences dans les populations, elles sont fortes, c'est pour des bonnes raisons, notamment parce qu'il y a eu l'utilisation de la force et en tout cas, à minima, on a donné aucune explication aux gens. Les personnes étaient mise à l'isolement, puis la plupart du temps ressortait morte. Donc la frayeur suscitée par ça, ça fait que les gens veulent pas aller au centre, veulent pas forcément dire qu'elles sont malades. Et du coup, il y a des propositions qui ont été faites. Il y a des gens qui travaillent sur les sciences sociales, qui sont sur le terrain aussi, qui font des propositions pour accompagner les médecins,
pour informer, pour que ce soit adapté aux communautés.
Et puis aussi des choses qui sont de très simples, des idées simples qu'il faut mettre en place. C'est par exemple d'avoir des centres de soins transparents. C'est-à-dire au lieu d'avoir des tentes qui sont dans lesquelles on ne voit rien et il y a une partie des tentes où il y a une fenêtre où il est possible de voir ce que l'on fait, c'est-à-dire on voit la personne en train d'être soignée, dont on s'occupe, et c'est plus cette espèce de case noire dans laquelle on rentre et on ressort et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc c'est des choses qui peuvent accompagner comme ça un programme, typiquement sur la vaccination qui suscite déjà des hésitations ou des méfiances.
Parce que par le passé, il y a eu des abus.
Bien sûr, il y a eu des abus. Oui, il y a eu des abus. Là, c'est vraiment la situation, c'est celle-là. C'est-à-dire, il y a une épidémie, elle a déjà fait 1000 morts, elle a commencé en août 2018, on est déjà à 1000 morts, c'est le ministre de la Santé de la RDC qui l'a annoncé vendredi dernier. Donc on sait que c'est une épidémie qui sera importante, mais sur le terrain, les scientifiques ont l'impression qu'elle a quand même un pas plus ralenti que la précédente, notamment celle de 2014-2016.
Oui, qui avait fait à l'époque
plus de 11 000 morts.
Plus de 11 000 morts en toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Hein.
Donc là, on a l'impression que quand même le vaccin joue son rôle de barrière et que peut-être grâce à lui, on va avoir moins de morts, mais encore une fois, on est dans l'expérimental. Donc on teste sur le terrain.
On teste d'autres vaccins aussi, mais c'est celui-là qui a les préférences. À lire dans Science et Vie, Ebola, le vaccin, l'épreuve du terrain. Je vous rappelle, amis auditeurs, que nous avons un exemplaire de ce magazine à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, Africa Stop Ebola. On écoute le collectif des plus grandes voix d'Afrique, Salif Keita, Oumou Sangaré, Tikenja, Didier Awadi, Amadou et Mariam. Africa Stop Ebola sur RFI.
L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades, ne touchons pas nos mourants. Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles. Ennemi. Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance au docteur.
Ebola, Ebola,
invisible enemy.
Ebola.
Africa Stop Ebola, collectif des plus grandes voix du continent sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Allez, on positive maintenant. À lecture du dossier de cerveau et psycho de ce joli mois de mai, Cécile Estienne, vous nous faites partager les nombreuses recherches en cours sur tous les bienfaits de la nature, sur le cerveau et sur le corps humain, les bonnes ondes de la nature. On commence par les découvrir avec les oreilles sur RFI, en fermant les yeux peut-être, à l'écoute de notre guide Alpha Joe Camara, jeune étudiant aveugle venu de Guinée jusqu'à l'Institut Valentin Huy des jeunes aveugles à Paris.
Un chemin, j'en reconnais la succession de matières sous mes pieds. Je ne confonds pas la poussière et la boue collante. Mais c'est l'intimité du chemin seulement qui me permet de comprendre à chaque pas où je suis. La familiarité, c'est par exemple le vent dans les ramures d'un arbre. Le vent qui agite doucement les feuillages. Lui, oui, c'est un proche, un parent, comme le sol qui suit mes pieds. Ou bien, je pense aux marigots, au son de la rivière qui coule. Ce son est retenu et contenu par les troncs des arbres et la végétation. Il coule, lui aussi. J'aime aller m'asseoir là, près du marigot.
On s'y croirait, nous aussi, près du marigot, Cécile Estienne. Les bonnes ondes de la nature, c'est le dossier de cerveau et psycho de ce mois de mai. Pourquoi est-ce que ça nous fait tant de bien, justement, d'être dans la nature? Parce que tous nos sens sont mis en jeu.
Oui, c'est un très joli témoignage. Effectivement, c'est une des raisons pour laquelle ça nous fait du bien. En fait, pour être honnête, quand nous avons décidé de faire ce dossier à cerveau et psycho, moi, j'avais un peu peur qu'on ne dépasse pas la sensation subjective de « oui, c'est super d'aller se promener dans la nature, de faire un tour en forêt ». Et effectivement, il n'y a pas de scoop, c'est très bien la nature, c'est même très important pour nous. Mais effectivement, il y a quand même des études assez solides qui essaient aujourd'hui de montrer pourquoi ça nous fait autant de bien et pourquoi on en a besoin, alors que, comme vous savez, en France, il y a 80% des gens qui habitent en ville, et dans le monde, on est déjà quand même à 50%
oui, hein, des gens qui habitent en ville. Moitié d'urbains hein, aujourd'hui. Dans
c'est important. Et une des raisons, oui, effectivement, c'est que c'est une expérience multisensorielle. Ça met tous vos sens en action. La vue, pas pour ce jeune homme évidemment, mais l'ouïe, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles ou le bruissement de la poussière, le toucher avec le rugosité des écorces et l'odeur évidemment. Et on sait que ce sont des sensations apaisantes effectivement. Je veux dire par là que c'est pas le bruit des voitures, l'odeur du pot d'échappement. Enfin bon, c'est des sensations qui sont vraiment agréables
Et qui font du bien. Enfin, au corps et au cerveau.
Les deux.
Effectivement,
puisque ça va toujours ensemble, ben oui. Hein, le corps et le cerveau, normalement. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand on lit un petit peu les études, on voit que voilà, la nature, faire un tour en forêt, ça relaxe, ça diminue le stress, ça booste les fonctions immunitaires, ça atténue les dépressions, ça revigore l'estime de soi, ça favorise les fonctions cognitives.
Comme disent les Japonais, par exemple.
C'est assez incroyable. Voilà. Et c'est quand même des choses que l'on mesure. Par exemple, la diminution de stress, on peut vraiment le mesurer. Parce qu'on voit la baisse du rythme cardiaque, la baisse de la pression artérielle. On mesure aussi le cortisol dans la salive. Le cortisol, c'est l'hormone du stress quand vous avez. Et on voit qu'effectivement, tout ça baisse quand vous allez dehors.
Donc ça fait du bien, ça fait du bien aux adultes. Et la nature nourrirait aussi le cerveau des enfants. C'est un des articles de ce dossier, Cécile.
Absolument. Mais bon, c'est normal, hein, si ça nourrit les adultes, il n'y a pas de raison que ça ne nourrisse pas les enfants. Voilà. Une des raisons qui fonctionne par rapport à tout ce que j'ai déjà dit là, le stress et tout ça, c'est une des choses qu'on peut mesurer aujourd'hui, ce sont les phytoncides. Les phytoncides sont des petites molécules émises par les arbres en très très petites quantités, hein, mais on a pu montrer qu'effectivement ça jouait sur la réponse immunitaire, ça booste certaines cellules du système immunitaire, ça fait baisser la fréquence cardiaque, ça aide aussi à se relaxer.
Les bains d'arbres, c'est bon, et se embrasser les arbres, c'est bon aussi, ou là on part un peu dans le délire forestier.
Si ça vous fait plaisir. Mais effectivement, je pense que quand on lit tout ça, on a l'impression que se promener en forêt, c'est un petit peu comme la méditation. C'est-à-dire que ça refocalise sur soi et sur l'attention au monde, mais sans tomber dans la rumination. Et c'est en même temps peut-être plus dynamique que de la méditation pour ceux qui sont rebutés par ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, ça semble améliorer les compétences cognitives. Il y a une petite expérience américaine qui avait emmené des étudiants, des jeunes, dans les parcs américains pendant 4 jours. Et après, ils l'avaient fait avant et après, ils ont fait faire des tests de créativité et ça a été amélioré de 50%. C'est quand même pas mal.
Ah oui, c'est pas mal. Donc, allons nous promener en forêt. Alors, les bonnes ondes de la nature. Dossier complet à lire dans ce numéro de Mai de Cerveau et Psycho. Nous avons bien sûr quelques exemplaires à vous faire gagner. Amis auditeurs, pourquoi ? Pour que tu respires. Mickey 3D sur RFI.
Autour de la question, comment la science infuse ? Caroline Lachowski.
Je suis toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
Respire sur RFI avec Mickey 3D autour de la question comment la science infuse et se diffuse. On retient notre respiration maintenant devant la toute première image d'un trou noir supermassif. Une prouesse technique réalisée par le Consortium international de chercheurs regroupé dans le Event Horizon Telescope. C'était le 10 avril dernier. On écoute le porte-parole de ce consortium avant de nous arrêter au bord du trou noir, au bord de ce monstre cosmique. Avec vous, Carole Chatelain dans Science et Avenir.
Je n'aurais jamais cru que ce trou noir serait aussi gros que les gens le disaient. Jusqu'à ce que l'on voit ceci. Voici le noyau de la galaxie M87. Et voici la toute première image d'un trou noir.
De quoi applaudir, effectivement, sidérante, l'image de ce trou noir, de ce monstre cosmique a fait le tour du monde et c'est l'occasion pour vous, Carole Chatelain, dans Science et Avenir, de revenir sur ces mystérieux et gigantesques phénomènes.
Oui, parce que je crois que pour bien comprendre, il faut déjà poser quelques bases et rappeler qu'en fait, l'univers est quelque chose de très organisé. En fait, il fonctionne avec des galaxies comme la Voie lactée, qui est notre galaxie, et il y aurait dans l'univers à peu près 200 milliards de galaxies.
200 milliards de galaxies.
Ce qui dépasse déjà l'entendement, qui elles-mêmes sont organisées en amas, ces amas étant organisés en super amas. Et ces galaxies, pour la plupart, ont un trou noir. La nôtre, qui s'appelle donc la Voie lactée, a le sien, qui s'appelle Sagittarius A étoile.
Au centre de notre galaxie,
voilà,
il y a un trou noir.
Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir. Et le trou noir qui a été observé et dont on a cette image exceptionnelle, bon, en radio, c'est pas évident de parler d'image, mais c'est une autre galaxie. Ce n'est pas la Voie lactée, c'est une galaxie qu'on appelle M87, qui est dans la constellation de la Vierge. Et elle a, elle aussi, un trou noir qui s'appelle donc M87. étoiles. Et c'est un véritable titan, puisqu'il est 1700 fois plus massif que le nôtre. Le nôtre étant un petit peu anorexique. Et
ça doit déjà être pas mal, un trou noir même anorexique.
Oui, c'est pas déjà énorme. Hein, celui-ci, il fait 65 milliards de masses solaires. Bon, je ne sais pas si les chiffres veulent dire quelque chose.
Non, c'est tellement gigantesque qu'on a du mal. Mais en tout cas, en plus, il y a un exploit technique derrière, c'est d'avoir réussi à le photographier ou à retranscrire son image.
Alors, c'est exceptionnel parce que de ces trous noirs, jusqu'à présent, on n'avait que des modèles. Et là, pour la première fois, alors pourquoi est-ce qu'on parle de photographie ? C'est qu'on est allé, on a pu observer les photons. Les photons, ce sont les particules de la lumière. Donc comment est-ce que ça s'est passé ? Il n'y a aucun télescope au monde qui est capable d'aller regarder un trou noir. C'est totalement impossible d'avoir ce que le trou noir, c'est invisible. C'est un trou noir, comme son nom.
Il n'y a pas de lumière.
Il n'y a pas aucune lumière, puisque rappelons ce qu'est un trou noir. C'est une sorte de puits de gravité. Tout ce qui en approche disparaît dans cette espèce de puits. Et donc, y compris la lumière, la matière, tout est avalé. Donc, et rien n'en ressort, a priori. On pourra après discuter, mais a priori, rien n'en
jusqu'à
ressort.
Jusqu'à présent, on pense que rien n'en ressort.
Donc, c'est quelque chose d'absolument effrayant comme violence. Et pour observer un trou noir, il faudrait qu'on ait des instruments. C'est comme si un Américain de Central Park pouvait lire un journal lu par un Français à Montmartre, ce qui est totalement impossible. Donc, ils ont réuni 8 télescopes pour les faire fonctionner ensemble, avec une précision diabolique, puisqu'ils les ont équipés d'horloges atomiques. Et ça a permis, cette mise en réseau, d'avoir une circonférence d'observation à peu près équivalente à la Terre. Et grâce à ça, les données qui ont été recueillies, tout ça a été mis dans ce qu'on appelle un corrélateur. Les données ont été moulinées dans tous les sens et cela a donné cette image. Alors, c'est quoi cette image ? Ce que l'on voit, cette espèce de disque de lumière orangée.
Un disque de lumière ou un œil, voilà. Enfin, on ne sait pas.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon, justement. L'horizon, c'est le bord du trou noir, parce que c'est la matière qui hurle, c'est l'agonie de la matière et de la lumière avant d'être absorbée par le trou noir. Donc, c'est son contour, en quelque sorte. On assiste là aux derniers instants de la matière avant qu'elle soit définitivement avalée. C'est un exploit technique extraordinaire. On attend maintenant les images de notre trou noir et surtout ce que cela approuve, c'est l'existence des trous noirs, déjà une, et de deux, Einstein peut dormir tranquille puisque ça confirme tout ce qu'il avait prédit. Les simulations étaient bonnes.
La première photo d'un trou noir et le mystère des galaxies, dossier cosmologique complet à lire dans Science et Avenir de ce mois de mai, dont nous avons, je vous le rappelle, amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. À l'écoute du cosmos et jusqu'en nos particules élémentaires, on écoute maintenant Flore Marchais sur RFI.
Oh mon cosmos, ma galaxie, antimatière et longue nuit, oh mes étoiles, ma voie lactée. Et mon soleil, rayon dardé, oh mes comètes, tous mes nuages, et ma planète prise en otage, mes océans au bleu cobalt, mes continents, mes îles de Malte, écran capture, oh mon pays, ma préfecture, mon monoprix, oh ma ruelle, oh ma maison, d'autres pixels à l'horizon. Enfants, ma chair, mon sang, oh mon cerveau et mes poumons, mes litres d'eau, oui mon côlon, mes reins, mon foie, mes testicules, mon estomac, oh mes cellules, mon ADN, mes molécules, oh mes atomes, mes particules, mes électrons, oh mes neutrons, photons et quarks à l'horizon, enfin mes cordes où que je sois. La vie déborde à chaque fois, la vie déborde à chaque fois, la vie déborde à chaque fois.
Ma particule élémentaire, Florent Marchais sur RFI, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, où s'appliquent les lois de la physique quantique, un étrange monde quantique qui commence à sortir des labos. La seconde révolution quantique, c'est le dossier de la recherche de ce mois de mai, Philippe Pageot. Et pour être sûr de bien comprendre où on met les pieds, je vous propose d'écouter le bilan mitigé, extrait de l'inénarrable exoconférence d'Alexandre Astier.
Physique quantique, un bilan mitigé. Alors en effet, la conférence de ce soir va tenter de formuler une synthèse définitive de l'héritage que nous a laissé cette bien ambitieuse théorie quantique. A-t-elle réellement réussi à déchiffrer l'infiniment petit ? Nous a-t-elle donné les clés de l'énigme atomique ? Physique quantique, révolution ou mascarade ?
Physique quantique, révolution ou mascarade, comme se le demande avec humour Alexandre Astier. Alors vous, Philippe Pageot, dans la recherche, vous optez plutôt, et avec un peu plus de sérieux, pour la première proposition, c'est ça ? On en est déjà à la seconde révolution quantique.
Oui, parce qu'en fait, elle est déjà sortie des labos, la physique quantique. Hein. On a parlé tout à l'heure d'horloge atomique, on parle de mesures de datation, tout ça, c'est de la physique quantique. La physique quantique, elle est bien là, c'est quelque chose qui est ancré dans notre quotidien. Et alors, effectivement, ce qu'on a voulu faire, c'est parler d'une deuxième révolution, et je vais essayer de vous expliquer comment c'est arrivé. Alors d'abord, la première révolution, c'est quoi ? C'est les fondements, effectivement, de la mécanique quantique, c'est l'héritage historique, hein, 1910-1930, avec Einstein, toujours lui, Schrödinger, Dirac, Heisenberg, Bohr, qui effectivement comprennent effectivement la nature de cette physique qui permet de décrire l'infiniment petit, donc le monde des particules, des atomes, de la lumière, comment elle se comporte. Et à partir de là, naissent des premières applications. Et ces premières applications, c'est effectivement le laser, par exemple. Effectivement, quand vous avez des atomes dans un atome, si vous faites, il y a des niveaux atomiques, si vous faites retomber tous les photons en même temps, et ben, la lumière part avec la même fréquence, la même longueur d'onde, et vous avez des lasers. Et les lasers, évidemment, aujourd'hui, c'est quand même...
application de la physique quantique.
Énorme, il y en a absolument partout. Le transistor, évidemment. Le transistor, en fait, dans votre téléphone portable, vous avez la physique quantique. Hein, c'est une application extrêmement...
On s'en sert déjà.
On s'en sert tous les jours, parce que le transistor, c'est l'électronique, et donc les ordinateurs, c'est la physique quantique. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir de ces premières applications, on a pu améliorer en fait les technologies de manipulation et de compréhension de la physique quantique. Et c'est ça qui a amené la seconde révolution. Alors, je m'explique. Grâce au laser, on a réussi à, par exemple, piéger et manipuler des électrons, piéger et manipuler des atomes. Et en manipulant les atomes individuels, on a pu effectivement comprendre comment ils se comportaient et ouvrir, faire de nouvelles applications. Alors, il y a une chose importante à comprendre.
On parle aujourd'hui, dans cette seconde révolution quantique, d'ordinateur quantique, mais là, on n'est quand même pas encore là.
Alors voilà, alors l'ordinateur quantique, on n'en est pas encore là. On en parle depuis très très longtemps, l'ordinateur quantique. On est tous autour de cette table, on a publié d'innombrables articles dans nos revues pour dire l'ordinateur quantique arrive. Je dirais que c'est pas quelque chose qui arrive de manière très très claire. En tout cas, on s'y prépare. En tout cas, les gens qui travaillent dessus, ils croient beaucoup. J'étais venu en parler ici même il y a quelques mois de gens qui réfléchissent à une manière de faire la cryptographie qui résisterait à l'ordinateur quantique, justement. Mais ce qui se profile et ce qui fonctionne, ce sont des expériences de cryptographie quantique, par exemple.
Cryptographie quantique, voilà. Pour protéger nos données, par exemple.
Ça fonctionne très bien, de manière industrielle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans le monde, vous vendent des processus pour avoir des secrets complètement, qui soient complètement inattaquables, grâce à la mécanique quantique, en profitant de ce qu'on appelle l'intrication. L'intrication, c'est le fait que deux particules que vous intriquez, hein, et que vous les éloignez, si que vous éloignez de la distance que vous voulez, si vous en mesurez une, et bien l'autre, elle se retrouve instantanément dans le même état. Alors ça paraît magique, mais
complètement magique. Mais...
Alors, en fait, ça veut dire qu'il faut repenser complètement avec la mécanique quantique la conception de particules. C'est-à-dire qu'en fait, cette espèce de particules très éloignées, intriquées, ne forme plus qu'une particule, et ça, effectivement, cette application de cryptographie.
Et parmi les autres applications dans ce dossier de la recherche, vous parlez d'un internet quantique.
Alors en fait, l'internet quantique, c'est en fait une prolongation de la cryptographie quantique. Alors Il se trouve que en Chine, ils ont commencé à faire de l'internet quantique. Il y a un réseau qui fait 2000 km entre Pékin et Shanghai qui est censé être quantique, mais en fait il n'est pas vraiment quantique. Pourquoi ? Parce que dans les fibres optiques, là où se propagent ces photons corrélés, ces photons intriqués, il y a de l'atténuation. En gros, tous les 100 km, vous n'avez plus de signal, il faut le rebooster. Problème, on ne sait pas faire des répéteurs quantiques, on ne sait pas répéter une paire intriquée de quantique. Alors, ce qui se passe, c'est que dans des demi-kilomètres, tous les 100 km, vous avez une petite cahute dans laquelle l'objet quantique est retransformé en objet classique, qui est ensuite retransformé en objet quantique. Alors, vous voyez bien le problème, c'est que du coup, comme vous êtes classique, il y a la sécurité est plus assurée, puisque vous n'avez plus cette garantie de sécurité que vous aviez avec le quantique.
Donc, il faudrait arriver à passer au-delà, voilà. et à prolonger cet état quantique.
Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que en Chine, en tout cas, il y a des soldats tous les 100 km dans cette petite cahute pour surveiller effectivement que la sécurité n'est pas... Il n'y a pas de problème de sécurité.
On a encore besoin des hommes pour voilà. surveiller les informations mais, au niveau quantique.
Voilà. Mais en Europe, il y a un grand projet dans lequel d'Internet quantique qui est fondé sur cette technologie-là, dans lequel, effectivement, on est en train d'essayer de fabriquer un répéteur quantique. Donc, quelque chose pour avoir un Internet vraiment quantique. Donc, c'est quelque chose qui commence à exister en Chine. En Corée du Sud, ils sont en train d'installer effectivement également avec la 5G un internet et des communications qui sont entièrement quantiques. Ça fonctionne. Et en Europe, il y a ce grand projet. On a interrogé Stéphanie Wenner, là, qui est professeure aux Pays-Bas et qui explique un petit peu qui est à la base de ce projet européen financé d'un milliard d'euros quand même. C'est sur 10 ans,
c'est pas mal. Il faut dire aussi que vous citez les diamants qui sont très précieux pour les physiciens quantiques.
Évidemment, il y a d'innombrables applications, et l'une d'elles, effectivement, c'est ce qu'on appelle les défauts dans les diamants. Les diamants ont des défauts, et ce défaut dans les diamants, en fait, il peut être considéré comme une sorte d'atome artificiel, et cet atome artificiel, en le manipulant, justement, on arrive à faire des détecteurs extrêmement précis pour détecter des champs magnétiques, et pour faire une électronique aussi du futur. C'est quelque chose qu'on est en train de...
Et qui peut servir aussi pour les IRM, et améliorer les IRM, notamment dans les hôpitaux. Donc on n'a pas fini d'entendre parler du quantique pour en savoir plus sur cette révolution quantique. Quand la physique quantique sort des labos, c'est le dossier de la recherche de ce mois de mai. Nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner. Accrochez-vous, amis auditeurs.
Bam bam, on s'asplasie sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi.
Plastique Bertrand, eh oui, sur RFI, ça plane pour moi, on a décidément peur de rien. Sur RFI, autour de la question comment la science infuse, sauf peut-être de la nouvelle arme fatale, le planeur hypersonique, Caroline Tourbe, l'arme qui fait trembler le monde.
Oui, carrément. Des planeurs qui seraient bourrés d'explosifs et qui seraient capables de voler jusqu'à Mach 20, 10 fois plus vite que le Concorde. L'idée, c'est que beaucoup de pays travaillent sur ce sujet-là, qui devient un sujet hyper confidentiel. Pendant longtemps, c'était un sujet de recherche et développement. On n'avait pas trop de mal d'ailleurs à trouver des scientifiques pour discuter du sujet. Cette fois-ci, Vincent Nuriga, qui a écrit le dossier dans Science et Vie, a eu beaucoup de mal à faire parler les experts.
C'est
devenu
un sujet
hyper sensible. Voilà. Alors, il a réussi, évidemment. Il y a beaucoup d'infos dans son papier. La Chine est dessus, les États-Unis aussi, et la France s'y met. La ministre des Armées a dit tout récemment, justement, qu'il n'était pas question de ne pas s'y mettre. Et pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'armement du futur et pour lequel il n'y a pas de possibilité d'intercepter. C'est-à-dire ce planeur, une fois qu'il est lancé vers sa cible, pour l'instant, on ne sait pas comment faire pour l'intercepter.
Ça promet, course aux armements, science ou science-fiction, en tout cas, c'est à lire ce dossier sur les planeurs hypersoniques dans Science et Vie. Alors devant une telle réalité, il faut peut-être mieux s'échapper un peu. Et c'est ce que notre cerveau sait faire, Cécile Essienne, quand notre cerveau fait comme si. Le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud, dans Cerveau et Psycho, nous fait découvrir d'étranges capacités cérébrales.
Oui, Jean-Philippe Lachaud, qui est chercheur en neurosciences Inserm à Lyon, et tient justement une chronique dans Cerveau et Psycho où chaque mois il prête attention aux recherches sur le cerveau qui pourraient avoir un impact à l'école. Il s'intéresse beaucoup, c'est un spécialiste de l'attention et donc il travaille beaucoup avec les écoles. Et là, vu le temps qui nous reste, je vais être assez rapide, mais l'idée qu'il montre, c'est qu'effectivement notre cerveau peut fonctionner, toutes les zones de notre cerveau peuvent fonctionner en mode contraint, c'est-à-dire en prise avec le réel, ou en mode libre, où on est libre, imaginez tout ce qu'on veut. Mais il se trouve que quand il est en mode autonome, comme ça, en roue libre, si vous voulez, il tient toujours compte quand même des effets du réel, comme si l'apprentissage de la vie faisait que on ne pouvait pas imaginer n'importe quoi.
Et ça nous invente, mais dans un canevas, c'est ça.
Ça ne veut pas dire que la créativité a des limites, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que ça fait, par exemple, ça donne des capacités de prédiction qui font que quand vous pouvez voir un bâton dans votre jardin, vous pouvez sursauter en pensant que c'est un serpent. Mm-hmm. Parce que votre cerveau, en mode partiellement contraint, va immédiatement compléter cette information. Et dans ce cas-là, va se tromper d'ailleurs. Mais, enfin, bon. Mais c'est aussi toute cette faculté de notre cerveau de faire des expériences de pensée. Et ça peut être effectivement intéressant à l'école parce que on le sait aujourd'hui quand même, l'apprentissage le plus efficace chez les enfants, c'est l'apprentissage actif. Voilà, pas passif, pas juste écouter le professeur, même si écouter le professeur, c'est déjà une bonne base, surtout quand on est spécialiste de l'attention. Mais bon, il faut vraiment être actif, mais on ne peut pas être tout le temps actif, tout le temps en train de faire des exercices ou tout le temps en train de faire des expériences, même s'il faut les faire. Et donc, cette capacité de prédiction, il faut pouvoir s'en servir de façon assez classique, par exemple. Notamment, d'ailleurs, pas comme je fais, par exemple, pas en parlant trop vite. Parce que pour donner au cerveau le temps justement de faire des prédictions, quand il est saturé d'informations, le cerveau ne se met plus en roue libre, ne fait plus de
prédictions. Lui donner un peu d'air pour qu'il puisse terminer les phrases
Absolument, ça, hein. Voilà. Et puis faire comme si. Et une des façons les plus facile à faire, c'est de dire par exemple aux élèves, donc je vous dis ça et alors qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer ? Ou qu'est-ce que vous croyez que ça va faire ? Donc, voilà. Et déjà, se mettre dans cet état-là de prédiction fait fonctionner le cerveau, il faut mieux mémoriser tous les apprentissages.
L'école des cerveaux, c'est donc la chronique de Jean-Philippe Lachaud dans ce numéro de Cerveau et Psycho, quand notre cerveau fait comme si. Maintenant, on va remonter le temps avec vous, Philippe Pageot, sur les traces des lauréats du prix de la recherche 2019, les archéologues qui ont mis au jour et décrypté le journal de Merer. Ce sont des papyrus égyptiens qui racontent la vie des ouvriers au temps de l'édification de la pyramide de Gizeh. Un document incroyable qui révèle un monde disparu.
Oui, c'était il y a 4500 ans. Donc on a retrouvé ces papyrus effectivement en 2013, et ça a été une découverte archéologique complètement incroyable. Il s'agit effectivement de Merer, qui était un fonctionnaire de l'Empire égyptien.
Ah, c'était un fonctionnaire sur son journal.
Son journal et il avait sous ses ordres des bateliers, et il raconte effectivement comment ils allaient chercher les pierres. Donc je peux vous lire quelques extraits du journal qui ont été traduits des hiéroglyphes, c'est assez rigolo. Alors c'est administratif évidemment, mais jour 25, l'inspecteur Merer passe la journée avec son équipe à aller des pierres dans la tour à sud, c'est une carrière de pierres. Passer la nuit à tour à sud, jour 26, l'inspecteur apparaît avec son équipe de tour à sud, charge des pierres à destination de la pyramide, passe la nuit, apparaît, voilà. Donc il décrit vraiment
l'édification de la pyramide.
Et voilà, tout ce travail qui était autour de la pyramide. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un témoignage de cette époque. C'est pas un témoignage effectivement directement de la manière dont la pyramide a été fabriquée, mais de tout ce qu'il y avait autour. Et donc c'est une découverte absolument extraordinaire. Il faut dire que Pierre Tallet, donc, qui nous décrit, qui est le découvreur, l'archéologue spécialiste des hiéroglyphes, qui nous décrit cette découverte, est encore en train de fouiller sur place.
Pour essayer de trouver autour ce qui peut nous faire partager le récit de l'édification de la pyramide.
Disons que je pense que l'essentiel, il pense également que l'essentiel des hiéroglyphes ont été découverts. Et donc, alors ce qui est très rigolo, c'est que ce qui a été retrouvé, c'est sans doute grâce à des pilleurs qui ont remonté des réserves, des magasins dans lesquels il y avait ce port près de la mer Rouge, qui avaient remonté des papyrus qui ont été du coup préservés, qui n'ont pas été humidifiés et qui sont restés quand même un petit peu au sec pendant 4500 ans. Et c'est pour ça qu'on les a aujourd'hui. Donc c'est quand même
le journal étonnant. De Mer Air, document extraordinaire à découvrir dans la recherche de ce mois de mai. Dernière escale avec vous, Carole Châtelain, sur les traces d'une civilisation disparue au cœur de l'Afrique, dans la cité médiévale d'Ifé, au Nigeria actuel, totalement abandonnée au XIVe siècle, repeuplée plus tard. Et la thèse de l'archéologue Gérard Chouin, que vous avez interrogé dans Science et Avenir, ce serait que la peste noire aurait ravagé ce coin d'Afrique et exterminé cette civilisation-là.
Oui, c'est ce que nous raconte notre journaliste Bernadette Arnault, qui est donc qui rencontre des recherches de Gérard Chouin et d'archéologues nigérians sur place, parce que Ilé Ifé est connu pour ses fameuses têtes d'Ilé Ifé, qui sont des têtes de bronze, qui sont considérées comme une expression d'art extrêmement sophistiquée.
Des têtes, des sculptures extrêmement raffinées.
Voilà. C'est un raffinement extrême, c'est l'art médiéval africain. Mais cette cité d'Ifé a été totalement abandonnée au XIVe siècle, on ne sait pas pourquoi. Et l'archéologue a fait des rapprochements avec d'autres cités abandonnées à la même époque en Afrique, et avec des recherches génétiques tout à fait récentes qui montrent que les traces de bacilles actuelles de la peste en Afrique sont d'origine européenne. C'est des lointains cousin de la peste européenne. Donc la thèse qui est vraiment très importante, ce serait que l'Afrique a connu elle aussi à la même époque, a
des
été ravagée
par
la peste noire. Il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas traversé la Méditerranée, mais on n'en a pas de preuves puisque ce ne sont pas des civilisations de l'écrit. Donc il ne nous reste aucun témoignage. Mais ça pourrait expliquer cet abandon brutal d'Ilé Ifé et d'autres cités africaines à cette époque. Et l'archéologue, avec les archéologues nigérians, va désormais fouiller sur place pour tenter de retrouver des corps, enfin, du moins des restes humains, pour essayer de voir si on peut faire des prélèvements, ce qui est compliqué puisque la nature du sol ne favorise pas.
Ne préserve pas les fossiles. En tout cas, pour en savoir plus sur les têtes d'Ifé, sur cette civilisation disparue d'Afrique et une probable peste noire, c'est à lire dans Science et Avenir de ce mois de mai. Et dans le magazine, nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Ils sont pour vous. Si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, avis aux amateurs. Et puis, merci à vous quatre. Donc, Carole Châtelain, Cécile Lestienne, Caroline Tourbe et Philippe Pageot. On se retrouve le mois prochain autour de vos magazines respectifs, Science et Avenir, Cerveau et Psycho, Science et Vie et La Recherche. En attendant, je vous rappelle aussi, amis auditeurs, notre jeu concours pour gagner une lunette astronomique autour de la question « Pourquoi viser la Lune ?» Merci à tous ceux qui nous ont déjà envoyé leurs textes lunaires et poétiques, tous plus émouvants les uns que les autres. Ça va être dur de choisir le ou la lauréate, mais les dés ne sont pas encore jetés. Vous pouvez encore participer cette semaine. Rendez-vous sur le site de RFI et sur notre page. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Rendez-vous demain autour de la question, pourquoi tant de couleurs de peau, en compagnie de la généticienne Evelyne Heyer, qui dirige le Musée de l'Homme, pour revenir sur pas mal d'idées reçues avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée, surtout gardez l'esprit libre et ouvert sur les bonnes ondes de RFI. C'est bientôt l'heure d'un prochain journal.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.